J'ai lu un livre qui a été écrit par une autrice pendant les confinements, autrice et enseignante, et qui disait qu'elle trouvait assez étrange. En fait, quand t'es dans une fenêtre de vidéoconférence, tu passes ton temps à te regarder toi-même pour savoir où t'es par rapport à la caméra. Et donc en fait, tu passes ta journée devant un miroir, et c'est assez déstabilisant, je trouve.
J'avais vu un accessoire qui m'a fait beaucoup rire, qui était post-confinement, justement, avoir toujours un miroir à la place de son téléphone, tu sais, pour pouvoir se voir tout le temps. Parce qu'on était habitué à... Ah ouais, à se regarder tout le temps, ouais. Il faut faire un effort conscient pour regarder l'autre. Je sais pas si... Si on peut désactiver la vision de soi, tu vois, c'est intéressant ça.
Et Zadie Smith, l'autrice du livre en question. Et c'est pour ça que je mets ta fenêtre au milieu de l'écran maintenant.
Oui, moi aussi.
Parce que comme ça, si je regarde la caméra ou que je regarde toi, je regarde à peu près au milieu, donc j'ai pas besoin de me regarder moi-même pour savoir que je regarde droit devant moi.
Ouais, c'est ce que je faisais aussi pour justement, je savais que je me regardais, mais comme ça, on avait l'impression que je te regardais, donc c'était beaucoup moins, beaucoup moins, comment dire, oui, mais bon, même réflexe, autre intention.
Non, mais c'est marrant tous ces problèmes qu'on s'est créés avec les technologies.
Et c'est la vie.
Platon aurait jamais pensé à ça, tu vois.
Non, mais Platon a créé son lot de problèmes lui aussi. tu vois, je vais pas sans vouloir. C'est peut-être une chose intéressante aujourd'hui qui est qu'on a peut-être plus qu'avant. Enfin, je sais pas. Après, j'étais pas vivant avant, tu vois. Donc, je sais pas. Mais l'illusion que on peut progresser sans contrepartie. Tout est en fait toute la. Tu sais, dans les contes, quand il faut faire quelque chose de magique. Et c'est en échange de quelque chose. Mais tout est ça, en fait. Tout est contrepartie, tu vois. Tout est une sorte de compromis.
Oui.
Et,
oui.
Y a pas de rien de super, rien de secret, tu vois. Donc, c'est, tout ce qui change apporte un autre changement derrière et, qu'il faut aussi, du coup, gérer, quoi. Et, la technologie encore plus, parce que c'est des changements qui sont drastiques, qui sont énormes, à l'échelle de presque de la nature elle-même, quoi. Et donc, ouais, ça change pas mal de choses.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une gêne que je ressens depuis un an et demi ou quasiment 2 ans, quoi. Et j'avais pas réussi à mettre les mots dessus avant de les lire chez quelqu'un d'autre.
Tu parles du fait de se voir, c'est ça ?
Ouais. De la puissance des livres.
Tu voudrais qu'on parle de livres, c'est ça ?
Non, si tu veux, après une trentaine d'épisodes, on commence à savoir faire des transitions et tout. On devient professionnel.
C'était très beau. Franchement, je vais te dire une chose. J'ai pas vu venir du tout. C'était très beau, très beau. Seulement au dernier moment, là. Bon, bah, pour la peine, t'as bien gagné le droit de commencer. Vas-y.
Écoute, exactement comme la semaine dernière où j'ai commencé par un truc un peu bizarre, je vais commencer par un truc un peu bizarre, et au lieu de parler de livres, je vais parler de magazines.
Donc le mec d'entrée de jeu, il tord les règles. C'est bien, vas-y, continue.
L'avantage de faire toi-même les règles, c'est que t'as le droit de les tordre. Non mais parce que, justement, l'an dernier, après les confinements, j'ai eu un peu de mal à me remettre à la lecture, parce que j'ai beaucoup écrit, et en écrivant à ce point, enfin, ça a été des journées très 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 longues, très... Enfin, j'étais fatigué à la fin de la journée, mais d'une fatigue différente de quelqu'un qui était à la caisse d'un supermarché ou dans une usine, mais une vraie fatigue, quoi. C'était très agréable, mais quelque part, ça m'a aussi grillé des cartouches intellectuelles et ça a été assez dur d'y retourner, quoi. Et j'ai essayé de re-rentrer dans la lecture avec les magazines. J'ai essayé des trucs très sérieux, des trucs beaucoup moins sérieux, peut-être une trentaine de magazines différents au final. Et ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier, à tel point que cette année, j'ai lu quasiment un livre par semaine.
Oh ah d'accord.
Jamais autant lu depuis la fin de mes études. Donc ça a marché. Hein.
Wow.
Et on n'y pense pas forcément aux magazines, surtout maintenant avec le web, où les sites web ont quasiment remplacé les magazines. Mais c'est aussi un bon moment pour se mettre loin des écrans et... c'est un truc un peu bizarre de la part d'un journaliste, mais parfois c'est bien de pas être dans les flux, c'est de pas être dans l'actualité, de prendre un moment pour soi, loin de tout ça, et de s'arrêter. Ça fait du bien. Et quelque part, le magazine qui est un objet, hein, comme le livre, hein, c'est à la fois un espace et un temps. C'est bien, et un magazine c'est plus facile à lire qu'un livre. Et donc voilà, lisez des magazines. J'ai conservé 3 ou 4 abonnements.
Ah, quand même, ouais.
Notamment la grosse, très grosse revue littéraire Europe, qui est un des trucs les plus jouissifs à lire.
Attends, je note. Europe, ok.
Et la toute petite revue Écolo Silence, qui est un tract imprimé sur du papier dégueulasse.
Ça, c'est très gentil, mais je noterai pas, enfin, si ça te dérange
non,
pas.
Non, ça, j'ai bien compris que tu noteras pas.
Voilà, mais je respecte beaucoup.
mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir à la fois des trucs qui font 8 pages, et puis des trucs qui en font 150, et puis au milieu, des trucs qui font 64 pages.
Ouais.
Il y a tout ça, et ouais, ça marche pas mal. Donc un prix d'honneur, une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de la carrière des magazines.
j'avais un rapport assez... c'est marrant, ça a disparu ça avec le temps, il y a quoi, il y a 5-10 ans quoi. Mais j'achetais notamment le Time, enfin j'aimais beaucoup le format, le fait que ce soit tout petit, facile à emporter, parce que c'était très fin, et tu pouvais papillonner facilement comme ça, trouver des trucs. Ouais, ok, c'est... Ça me donne presque envie d'en racheter, donc merci. Ouais. Bon, bah, je vais pas être original pour mon premier item de la liste. Alors, un petit livre, Clara et le soleil, je sais pas si tu connais, qui m'a été recommandé par Anthony NS. Donc, s'il se reconnaît, qu'il n'hésite pas.
Pour les gens étranges qui commencent ce podcast par l'épisode 31, on a parlé de Clara et le soleil dans l'épisode 27.
Merci beaucoup, c'est ce que... C'est ce que je cherchais comme information. En même temps, j'étais en mode, c'est quel numéro? Et du coup, très bon livre. Bon, bref, je vais pas non plus répéter ce qu'on a dit là-dessus. Mais très bon livre, allez le lire, c'est très bien. Je pense que tout le monde peut aimer.
Pour répéter quelque chose que j'ai beaucoup dit dans cet épisode, c'est chouette.
C'est chouette, c'est très chouette. C'est vraiment très chouette. Et pour que M. Nelson Santos dise que c'est chouette, c'est que c'est probablement chouette. Donc vous devriez vraiment le lire et l'offrir et ceci, cela. Mais vu que le mien était facile, je vais continuer avec un autre pour la peine, tiens.
Allez, vas-y.
Le guide de macOS Big Sur par Anthony... Non.
Montrez en plus, monsieur Anthony.
Montrez, merde, en plus, oui. Je voulais faire la blague, j'ai pas réussi. Très très bon livre.
Prends un autre auteur de talent.
Ok, je vais dire Walter Isaacson. Qui a fait une biographie de Léonard de Vinci, qui elle-même n'est pas tout à fait récente, hein, elle a quelques années déjà, mais je l'ai lu cette année, donc ça compte. Et alors quand je dis que j'ai lu, je l'ai pas fini, j'en suis au 7-8e, parce que c'est quand même un peu chiant, mais c'est pas mal. Ce que j'ai aimé dedans, alors ce que j'aime pas dedans en fait plutôt, c'est qu'il a beaucoup de talent pour prêter des intentions aux gens et s'immiscer dans la biographie. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui... On sent qu'il y a un peu d'ego quand même. Un peu. Hein. Mmh. Enfin, je sais pas si c'est de l'ego, mais tu vois, en tout cas, il est très présent. Il dit, ah, mais je pense que c'était plutôt ça. Et puis, en fait, ça. Mais à mon avis, c'était ça. Donc, à un moment, juste tais-toi et il raconte. Et l'autre truc, c'est, par contre, que j'ai aimé, c'est que il met beaucoup, évidemment, d'illustrations. Il explique bien le contexte historique, politique, culturel. Enfin, ce qui est évidemment le minimum dans une biographie, tu me diras, mais c'est vivant. Il parle de Léonard de Vinci comme si c'était quelqu'un qu'il avait rencontré, quoi, et ça le rend très, très présent. Pour la même raison, et c'est une raison assez faible, mais valable, j'aime aussi Secret d'Histoire pour ça. C'est que ça donne une réalité à une histoire que je trouve vraiment très abstraite, au demeurant, quoi. Ça ancre les personnages, même s'ils sont romancés, dans une réalité concrète, ils sont plus proches de moi.
Quitte à choisir parmi les amuseurs français de la galerie historique, je préfère Stéphane Bern, qui a une certaine culture historique, à l'autre Zozio, dont je tairai le nom pour pas m'énerver. Walter Isaacson, par ailleurs, c'est un historien à l'origine, il a commencé sa carrière par deux très bonne biographie, une de Kissinger, une de Benjamin Franklin.
D'accord.
Celle de Benjamin Franklin, on la lit, on la fait lire aux étudiants en histoire nord-américaine. Donc,
on
est de ce niveau-là. C'est aussi le type qui a commis la biographie de Jobs. Et donc, je suis assez curieux de voir comment se compare la biographie de Vinci avec celle de Jobs.
Bah, j'ai lu celle de Jobs aussi. J'arrive pas trop à faire de différence. c'est vraiment un béotien qui parle, donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez lu à l'occasion, vous, auditeurs, l'un ou l'autre ou les deux de ces ouvrages, à nous dire ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais de mon côté, je trouve les mêmes travers, qui sont beaucoup de réinterprétations, beaucoup de, d'intentions données, et du coup une certaine partialité qui me dérange un peu. Et c'est pas verbeux, mais des fois tu vois quand même un peu quoi. Voilà. Mais derrière il y a des anecdotes vraiment et des choses aussi, à des pépites quoi. Donc bon.
Isaacson, il me fait beaucoup penser à Mark Lansky, qui est un auteur qui écrit des livres sur, qui écrit des dizaines et des dizaines de livres. À chaque fois sur un sujet très particulier, il a écrit un livre sur sur les huîtres, sur le lait, sur la morue, sur le sel, sur l'année 1968, tu vois, sur le papier. Et qui sont des livres, notamment j'ai lu celui sur le sel, il est pas mal. Hein. Il y a quelques erreurs historiques et il y a beaucoup de fluff, mais c'est très formulaïque. Et en fait, quand tu lis le livre sur le lait, par exemple, bah t'as lu celui sur la morue. C'est exactement les mêmes ressorts. Exactement les mêmes ressorts, exactement la même manière de présenter les choses. Et Isaacson me fait un peu cette impression-là aussi, où t'as lu une biographie, en plus c'est très marrant, hein, Jobs, les innovateurs, Léonard de Vinci, il y a un côté très sériel dans l'approche. C'est assez marrant comme manière de faire.
C'est ça. Ça me rassure que tu dis ça, parce que du coup ça veut dire que mon intuition était à peu près bonne, mais effectivement je trouve les deux ouvrages assez proches, quoi. C'est aussi bien dans les bons points que dans les points les plus ennuyeux, en tout cas à mon avis.
Bah, quitte à parler de génie absolu, je vais parler de Dieter Rams.
Mais qui est Anthony Nelson Santos?
À chaque fois que je vais dans un musée, je lorgne sur les livres de Faydon qui sont dans les librairies. Et pour ma première sortie dans un musée depuis très très longtemps cette année, au MAMC de Saint-Etienne, j'ai acheté le livre de Faydon sur Dieter Rams.
Ah, il y en a un? Je savais pas.
Oui.
Ok.
Qui est sorti l'an dernier, donc qui est tout neuf. Hein. Qui est un magnifique bouquin, parce que c'est un grand bouquin, un bouquin grand format de Faydon, donc c'est toujours très agréable d'avoir ça en main. Magnifique bouquin parce que les objets de Rams, un jour quand je serai grand, j'aurai des étagères 606, un jour. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu peux le lire comme une grande collection photographique des objets designés par Rams, dont les étagères 606, tout ce qu'il a fait chez Brown et qui a évidemment énormément inspiré Johnny Ive et Apple. Tu peux aussi lire ça comme le constat d'un échec. Moi, ce que je trouve fascinant dans ce bouquin, c'est que plus tu avances dans le temps, et moins tu as de boutons,
ouais,
moins tu as d'aiguilles, parce qu'il y a de plus en plus de circuits électroniques. Plus le métal et le bois laissent leur place au plastique, moins les propositions de Dieter Rams sont convaincantes. Et tu vois un designer vieillir et un designer perdre sa touche.
Dépasser, quoi, un peu. Ouais.
Bah, tu vois un spécialiste de la tactilité être dépassé par le fait que l'industrialisation et la mondialisation et le plastique ont détruit cette tactilité dans les années 70 et 80. Et donc tu vois au fur et à mesure sa vision s'effilocher. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les toutes premières pages, évidemment les prix, puisque ce sont des objets commercialisés. Et dans les dernières pages, tu n'as plus de prix. Tu as « not released for sale », puisque ce sont des produits qui n'ont jamais été... C'est quand Braun est racheté par Gillette. Et donc ce sont des produits qui n'ont jamais été commercialisés, puisque trop cher. Dieter Rams devenait trop cher, devenait trop compliqué pour une multinationale comme Gillette. Et donc ce bouquin, je l'ai trouvé... À la fois très enthousiasmant parce que ça montre ce qu'on peut faire, mais aussi très triste parce que ça montre ce qui aurait pu être. Et puis bon, c'est un bouquin de Faydon, quoi. C'est grand format, c'est un bouquin très lourd. Enfin, c'est toujours. Puis c'est très joli maintenant dans ma bibliothèque. C'est quand même chouette.
Ta bibliothèque là, en attendant la prochaine 606.
En attendant les 606.
Voilà. du coup, je sais pas si j'ai envie de le lire. Ça me donne des sentiments tristes. Bon, mais ok.
À toi.
J'ai un peu envie de parler de l'enracinement de Simone Veil, avec un W, donc pas celle qui est au Panthéon, l'autre. C'est un bon bouquin. C'est un bouquin qui a été écrit. Alors, Simone Veil est morte très jeune, moins de 40 ans, 32 ans, non, 36.
Quelque chose comme
ouais,
ça.
Très ouais. jeune. Et. En fait, elle était en train de l'écrire quand elle est décédée et elle n'a du coup jamais eu le temps de le relire, de le terminer. Donc c'est un bouquin inachevé et qui est très brut. Pourtant, dans l'écriture, c'est bonne nouvelle, quoi. Donc, c'est un laser. Je veux dire, je sais pas si elle corrigeait des choses quand elle se relisait, en vrai. Parce que c'est tellement parfait. Enfin bon. Je pense qu'elle réorganisait plutôt qu'elle réécrivait. Donc c'est un bouquin qui, on l'avait chargé, et elle s'est chargée un petit peu elle-même d'ailleurs, de réécrire une constitution des droits de l'homme, lorsqu'elle travaillait à Londres pour De Gaulle, dans la perspective de la victoire de De Gaulle sur l'Allemagne nazie. Et du coup, dis-moi si je dis des bêtises parce que je suis pas historien du tout, hein.
Non, je bois tes paroles parce que j'adore ce livre, donc j'écoute attentivement.
Ok. C'est un ouvrage fascinant, quoi. Elle commence le tout premier mot, en fait, parle du devoir plutôt que du droit, en disant que le droit implique un devoir et donc une obligation, et que ce sont plutôt des obligations envers l'être humain qu'elle propose plutôt que des droits de l'homme. Ce que je trouve déjà plutôt brillant. Et tout est un peu de ce genre-là. Elle distingue des droits, des devoirs, des obligations envers l'homme en termes de physicalité, matérielle et plutôt spirituelle. Donc que ce soit d'ordre intellectuel, d'ordre émotionnel, tout ça. Et alors, évidemment, il y a de l'utopie là-dedans, parce que, déjà, une personne ne peut pas, je pense, définir une société toute seule, et puis, c'est un livre inachevé, et puis ceci, et puis cela, mais ça montre, tu vois, tu parlais de Dieter Rasm, ça montre ce qui aurait pu être, ça aurait pu peut-être être ça, et on voit ce que c'est aujourd'hui, et bon, il y a un certain décalage, hein, sans vouloir être pessimiste, et surtout, ça donne une, en négatif, en creux, ça donne une grille de lecture d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas aujourd'hui? Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup éclairé là-dessus. C'est que toutes ces obligations, il suffit de les lister et voir qu'en fait aucune n'est remplie. Aujourd'hui, on est exactement dans l'opposé de ça. Et toute la pression sur l'individu, toutes ces oppressions multiples, c'est l'antidote à ça un petit peu. Donc c'est à la fois un peu déprimant, mais en même temps ça crée une sorte d'optimisme quand même, parce qu'on comprend certaines choses déjà, donc il y a une clarté intellectuelle qui se crée, et rien n'est impossible, je veux dire, je pense, au final.
C'est le dernier livre que j'ai commencé avant que l'on apprenne tous l'existence du coronavirus SARS-CoV-2. donc pour moi, l'enracinement, ça reste la lecture de la découverte de cette nouvelle ère. Non, mais c'est un livre politique au sens du terme, quoi. C'est j'aime bien l'idée que De Gaulle vienne te voir, te dise bon, il va me falloir un programme politico-spirituel pour justifier la constitution de la Nouvelle République. Vas-y. Et puis elle dit non, je vais faire autre chose, je vais faire une déclaration des devoirs envers l'être humain, tu vois, je vais
c'est littéralement ça.
au généralissimo. Et c'est Camus qui disait il est impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies dans l'enracinement. Camus.
Ouais.
C'est quand même
Ouais.
Et oui, c'est un... Alors tu vois à quel point ce bouquin a influencé la rédaction de la Constitution de la Ve République, et plus encore, je pense, le projet européen.
Je pense plus que... Effectivement, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Ouais. Mais aussi parce qu'il y a hein, Simone Veil est une personnalité catholique de gauche, comme les fondateurs de l'Europe pouvaient l'être. Hein. Mais oui, quand tu penses à la primauté des devoirs sur les droits, ou à la différence entre égalité et équité, c'est ça, quoi. C'est... Et je crois qu'il y a quelques gens qui se disent catholiques aujourd'hui qui devraient lire ça, et ça changerait peut-être certaines de leurs opinions politiques. Tu peux pas lire Simone Veil et voter pour l'extrême droite, c'est pas possible.
Oui, non, j'ai un petit doute aussi, oui.
À moi, du coup.
C'est à toi.
Ben écoute, Simone Veil, c'est le bouquin que j'ai lu juste au début du confinement, et Hamnet, c'est un bouquin qui parle de la peste noire. Là, on va rester dans, dans les épidémies.
Tant qu'à faire.
Donc Hamnet, comme Hamlet, puisque c'était probablement le prénom du fils de Shakespeare, qui est un magnifique roman de Maggie O'Farrell, où elle se pose la question des prénoms. Je trouve ça intéressant. Hamnet, donc comme Hamlet, Et on a l'épouse de Shakespeare, on a la sœur, on a les sœurs, on a les tantes, avec des prénoms qui changent. Et il y a un nom qui revient jamais dans le bouquin, c'est celui de Shakespeare. Shakespeare n'est jamais nommé dans tout l'ouvrage. Il est là, hein, il passe, il fait des apparitions. Mais on se concentre là sur son fils, qui donc chope la peste noire et en meurt. C'est un bouquin incroyablement touchant. Il y a une phrase toute bête. Hein, il y a plusieurs manières de pleurer. C'est bête hein, quand c'est dit comme ça. Mais c'est très beau. C'est un très très beau livre. Je crois qu'il a été traduit en français. Je ne sais pas si la traduction est aussi bonne que l'ouvrage original. C'est peut-être l'écueil. Mais même traduit, je pense qu'il faut le lire. C'est un très très beau bouquin. Et il n'y a pas besoin d'être fan de Shakespeare pour le lire. Ça pourrait ne pas être Shakespeare que ça marcherait. Mais ça marche d'autant mieux que c'est Shakespeare et qu'il n'est jamais nommé.
Ok. Bon, je vais peut-être le lire aussi alors. Et c'est pas un des livres que Bill Gates avait lu aussi cette année ?
Si, ça fait partie de sa sélection. Ça m'embête un peu d'ailleurs, dans les 5 livres recommandés par Bill Gates à Noël, j'en ai lu 3. Ça m'embête.
T'as quelque chose à nous révéler peut-être ? Parce que le fait que vous ayez vu tous les deux dans la même pièce.
C'est vrai. Bon. À toi alors.
Alors, comme j'ai 2 articles, je vais les faire dans la foulée.
Et bah dans ce cas, je vais te piquer la place. Puis je vais mettre mon top 4, comme ça tu finiras par tes 2 articles.
Et bien soit.
De la même manière que j'ai un peu triché tout à l'heure avec les magazines, je vais un peu tricher en recommandant une collection qui est la collection de la Pléiade de Gallimard.
Oui, il y a quelques bouquins là-dedans quand même.
Il y en a 2 ou 3. J'aime bien voir la Pléiade comme du livre de poche. Du livre de poche cher, mais du livre de poche, hein, parce que ça, c'est une reliure en cuir, c'est solide, et puis dans un bouquin qui tient dans la main, tu peux mettre 6 ou 7 romans. Et finalement, quand tu te dis que t'as 6 ou 7 romans pour 60 euros, c'est pas si cher que ça. finalement. Je me suis remis à collectionner des Pléiades alors que j'avais arrêté il y a longtemps, et notamment je suis en train de lire Don Quichotte en ce moment dans la Pléiade, et j'ai beaucoup écrit sur l'objet livre, la physicalité du livre et l'importance de ça. Et c'est avec ce genre de collection que tu vois l'importance de l'objet. Et où c'est un plaisir d'avoir un livre qui tient dans la main, avec une reliure et du papier très souple. Donc ça tombe dans la main. Il n'y a pas le souci de t'es obligé de tenir la couverture de gauche tant que t'es pas arrivé au milieu. Et puis quand t'as dépassé le milieu, t'es obligé de tenir la couverture droite. Non, c'est souple. Ça tombe tout seul. Il y a 15 marque-pages, donc tu peux marquer des pages dans tous les sens. C'est magnifiquement composé en garamonte, c'est fait correctement, tu vois, c'est pas fait en 2-2 dans InDesign, non, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. C'est bien, quoi, c'est un bel objet. Et puis en plus, pour avoir des Pléiades, certaines très très anciennes, certaines des années 60-70, et puis évidemment des Pléiades plus modernes, c'est pas un objet qui est moins bien fabriqué qu'avant, c'est un objet qui est mieux fabriqué qu'avant.
Extraordinaire.
C'est assez plaisant.
Oui.
Donc ouais. Donc il shot dans la Pléiade. À toi.
Ah non, ça donne envie aussi, ça, c'est vrai. Tu fais chier. Alors, voilà, je vais devenir pauvre à cause de lui. 2 articles pour finir cette sélection de mon côté. Le premier, qui je crois a été assez approprié en cette période de pandémie mondiale, qui s'appelle « Your burnout is unique, your recovery will be too » de la Harvard Business Review. Un article qui date de avril 2021, on mettra le lien dans la description. Un article tout bête, mais alors pourquoi il m'a frappé particulièrement, c'est parce que le burnout est quelque chose qui touche beaucoup de gens, et surtout, un peu comme son nom l'indique, travaille un peu en sous-marin, jusqu'à ce qu'on se rende compte un peu tard en fait qu'il est là, quoi. J'ai plusieurs collègues qui en ont été victimes, et je pense que c'est quelque chose de plus insidieux et surtout de plus normal, banal qu'on ne le croit. Et il y a des choses simples à faire pour l'éviter, mais le souci du burn-out, c'est que c'est seulement la personne qui en est victime qui peut s'en sortir. On peut rien faire pour elle à part être un support sans plus, quoi. On peut pas, enfin, c'est vraiment un acte de volonté de s'en sortir. C'est très compliqué. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Et évidemment, l'énergie dont on manque, enfin, encore plus sur cette période-là. Donc, c'est un article très simple qui rassemble plusieurs points. Voilà comment prévenir, voilà comment voir si vous en êtes victime ou si quelque chose se profile à l'horizon de votre côté. Voilà comment y remédier pour chaque point. C'est vraiment très simple. Et je crois que ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Je recommande l'article pour ça. C'est que j'étais pas au courant que c'était quelque chose d'à la fois aussi simple à régler, si c'était pris à temps, et d'aussi commun en même temps.
Ouais. Je parlais de Zadie Smith en introduction. Elle a cette phrase intéressante sur la souffrance, qui est le seul absolu. Parce que c'est quelque chose qui est très individuel et c'est quelque chose qui est dans ta tête.
Ouais.
Et elle prend l'exemple d'une fille qui, pendant le confinement, s'est mis une balle parce que... Enfin, s'est suicidée parce que elle pouvait pas voir ses amis. Et où, une manière très naïve, ce serait de dire « Mais tu te rends compte, c'est rien par rapport aux gens qui ont été en première ligne et qui ont été obligés... » Et non, c'est tout aussi valable. La souffrance est un absolu.
Mmh.
Et... un des problèmes de du burn-out, c'est que c'est souvent une maladie qui est associée au col blanc, et donc on minimise cette souffrance en disant ben oui, mais
totalement.
La souffrance physique, la souffrance sociale, ce sont des souffrances plus importantes. Et non. la souffrance, c'est absolu. Et quelqu'un qui souffre de dépression, quelqu'un qui souffre de burn-out, c'est une souffrance qui est tout aussi valide que d'autres formes de souffrance, et c'est pas quelque chose à minorer. Et
on peut pas les comparer en fait. Ouais.
Pour être quelqu'un qui connaît ce genre de choses, non, on peut pas laisser traîner ça et on peut pas les minorer quoi. Il faut prendre ça très au sérieux. Évidemment que c'est quelque chose qui procède de l'individu, mais c'est important d'avoir des gens autour de toi pour détecter.
C'est ça, tirer les sonnettes d'alarme quand il
faut. Et pour. Mais non, au contraire, il faut pas du tout minorer ça. Il faut pas du tout se dire non, mais ça va. Moi, je suis privilégié, tout ça. T'es privilégié, c'est bien. C'est précisément parce que t'es privilégié et que t'es capable d'avoir cette réflexion sur toi-même qu'il faut faire gaffe à pas aller au rupteur, quoi. Et qu'il faut te donner l'occasion de lâcher prise parce que t'as la chance de pouvoir lâcher prise et que si tu lâches pas prise, tu vas aller droit dans le mur et ça va jusqu'à cette gamine qui s'est suicidée, quoi. Et on en voit des gens qui font un burn-out et qui soit claquent la porte, soit pire. Donc, ouais.
Et du coup, pour finir sur une note un peu plus positive quand même, mais faites attention à vous. Un article d'une personne qui nous écoute, qui s'appelle Suzy Felber, qui est une ancienne collègue, qui est une personne que j'adore, qui est fantastique. Et c'est sa définition, fantastique. Et son article s'appelle... alors, il a été traduit en français, je crois, mais le titre anglais, c'est « Scared you won't make your health goal ?» Point d'interrogation. Me too. Je le dis avec le meilleur accent que je puisse. J'ai une parenthèse là-dessus. J'ai trop de respect humain pour faire l'accent comme Anthony le fait, mais il a raison d'assumer. Mmh. Ouais. Mais j'assume pas encore. Un jour peut-être, quand je serai grand. Donc, c'est un article qui date d'octobre 2021, qui est disponible sur le blog de la boîte Withings. Ça parle tout simplement de comment elle s'est mise au sport, sans aucune... Elle était tout à fait body positive avant, donc elle avait aucun problème avec le fait d'avoir des kilos en trop. Elle a aucun problème à en avoir moins maintenant. C'est la manière la plus naturelle du monde de se mettre au sport. Et elle s'éclate, et enfin, je trouve ça juste génial, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir que des gens normaux pouvaient apprécier le sport normalement. Je sais pas si c'est très clair comme pensée, mais je pense que tu vois ce que je veux dire.
Oui, moi qui suis beaucoup moins positif qu'elle sur mes kilos en trop, et mais qui adore faire du sport, mais je suis gêné par par mes kilos en trop. J'aime bien son, enfin, on parlait de souffrance à l'instant, pour des gens c'est une véritable souffrance, hein, faut pas l'oublier, mais parfois c'est aussi une forme de souffrance qui est assez délicieuse, et j'aime bien cette idée que tu peux. Parfois, c'est pas grave, quoi. Tu te dis, faut pas se laisser enfermer dans ses objectifs de manière trop sérieuse, quoi. Parfois, il faut aussi juste se caler sur ses sensations et, vous voyez, bah, au lieu de perdre un kilo, t'as perdu 500 grammes. C'est pas grave. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que...
Preach. Ça veut dire prêche en français.
Eh ben, écoute, pour finir, quelque chose qui fait prendre des kilos ou qui en fait perdre, je sais pas trop. Peut-être les deux. Un de mes auteurs favoris aujourd'hui, c'est Craig Mudd. Je sais pas s'il faut dire que c'est un marcheur qui écrit ou un écrivain qui marche, peut-être un peu des deux.
Vraie question.
Et donc que je suis des années parce que c'est un grand marcheur comme moi, c'est quelqu'un qui écrit mieux que moi, donc c'est assez agréable, qui a publié cette année un bouquin qui s'appelle Kissa by Kissa, qui est le produit d'une grande randonnée de 1000 et quelques kilomètres dans la campagne japonaise, en allant de Kissaten en Kissaten, qui sont des cafés japonais dans lesquels on sert des choses affreusement pas japonaises, dont des pizza toast. Magnifique recueil avec plein de photos et plein de jolis textes, qui m'a été très gentiment offert pour mon anniversaire par Arnaud Jourdan.
Oh là là, c'est incroyable. J'espère que je le rencontrerai un jour.
Et ce livre valant très cher avec des frais de port indécents.
C'était vraiment indécent.
Je vous recommande pas de l'acheter, mais je vous recommande les newsletters de Craig Mod, notamment celle qui s'appelle Rodden. C'est des petites capsules avec des petites photos d'un endroit qui est très lointain, avec voilà, des photos qui sont très jolies, des petits textes assez délicats. Et parfois, ben, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Moi, j'aime bien trouver un mail de Craig Mott dans ma boîte mail. C'est mieux que les spams et c'est mieux que les innombrables newsletters professionnels que je reçois par ailleurs.
C'est une découverte que j'ai faite grâce à toi. Je le suivais déjà depuis un certain temps sur Twitter, mais je pense que c'est grâce à toi aussi. Et je me suis inscrit à la newsletter il y a quelques semaines seulement. Et à chaque fois que je la reçois, je la préserve soigneusement pour me réserver un moment de lecture tranquille. Regarder la vidéo qui va avec, où il se passe rien. Et tu mets juste le son comme ça, tu lis en même temps. Enfin, c'est privilégié, ouais. Ouais.
C'est... Je sais pas. Il a une approche délicate des choses. C'est pas prétentieux, tu vois. C'est... Et parfois, c'est bien, quoi. C'est pas un mec... Enfin, c'est un mec qui se prend très au sérieux. Le bouquin, enfin, le making-of du livre est terrible, quoi. Je veux dire, le nombre d'épreuves, le nombre de pièces de puzzle qu'il a fallu mettre ensemble pour aboutir à cet objet qui est l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, et pourtant, j'en ai quelques-uns, des beaux livres. Mais voilà, c'est un mec qui est attentif et attentionné, les deux. Quand t'es capable de mettre ces deux qualités ensemble, ouais, ça me parle, quoi. J'aimerais pouvoir être à la fois attentif et attentionné. Quand je suis attentionné, je suis pas attentif. Quand je suis attentif, je suis pas attentionné. J'aimerais être capable d'être un humain aussi bien formé. Et en attendant, je lis Craig Mode.